L'évangile de Marc ce soir, bonsoir à tous. On va prendre l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 35 à 45. 10, 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. Jésus leur répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les dix ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jacques et Jean demandèrent quelque chose à Jésus. Moi, je vois comment ça aurait tourné. Ils demandent l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Et après, ça aurait été, bon, moi, je vais être à ta droite. Et ça y est, c'était les chicanes. Non ? Bien sûr. Jésus leur répond, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Cela ne dépend pas de moi. Voyez, mes frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas à demander à Jésus. Parce qu'elles sont déjà décidées. Et on n'y changera rien. Et c'est très bien ainsi. Ce que Jean et Jacques voulaient, c'était le pouvoir de dominer. Avec Jésus, bien sûr, à ta droite, l'autre à ta gauche, dominé. Mais quand même, l'idée, c'était d'être les plus grands parmi les autres. Être de ceux qui étaient au plus près du pouvoir. Jésus ne s'y trompe pas. Alors, il parle au sujet de ce que c'est que d'être grand. Il parle au sujet de ce que c'est que d'être le numéro un, d'être le premier dans le royaume de Dieu. C'est très différent de la façon dans le monde. Vous voyez, mes frères et sœurs, la vraie grandeur, ce n'est pas une question de pouvoir, de diriger les gens. Ce n'est pas ça. Je pense au contraire que Dieu confie la direction réelle des choses de son monde, c'est-à-dire de son royaume, à ceux qui n'aiment pas diriger. À ceux qui ne savent pas, à la base, diriger. Et c'est pourquoi, aux yeux de l'esprit du monde, les gens vraiment spirituels sont méprisés parce qu'ils n'ont pas de goût pour prendre la direction des choses. Alors on dit oui, mais enfin bon, voilà, c'est mal organisé, voilà. Oui, peut-être souvent. Mes frères et sœurs, soyez donc rassurés. Si on vous méprise, c'est que ceux qui vous méprisent n'ont pas saisi quel est le système du royaume de Dieu. Parce qu'il y a bel et bien le royaume de Dieu dans ce monde. Bien sûr, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Merci Seigneur. On est dans son royaume, et dans son royaume, ce n'est pas comme dans le monde. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne de faire ? Ben, ça ne sert à rien de s'indigner contre ceux qui réfléchissent comme le monde, mais au contraire, de prier pour eux. Les 10 autres disciples, eux, se sont indignés contre Jean et Jacques, et je vous le dis, ne vous indignez pas, priez pour eux. Le prophète nous a dit quoi ? Il nous a dit que ceux de Laodicée sont aveugles, qu'ils ne voient pas. Alors, il faut prier pour les aveugles. C'est ce que la Bible, c'est ce que Jésus nous dit de faire, c'est de prier pour les aveugles, non ? Prions donc, et puis conseillons-leur d'acheter de Dieu un collier pour oindre leurs yeux. Ce n'est pas nous qui pouvons leur rendre la vue, c'est le collier de Dieu, c'est le miracle de Dieu qui peut leur rendre la vue pour qu'ils voient clair au sujet des choses du royaume. On a beau leur parler, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est une cécité spirituelle. Ce qui les attend, c'est tellement grave, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils croient qu'on dit ça pour leur faire peur ou pour essayer de les avoir ou de, je sais pas, les manipuler. Mais la grande Babylone va tomber, la ruine des nations, mes frères et sœurs. C'est plus une prophétie. C'est plus une prophétie. Vous ouvrez la radio à n'importe quelle heure et vous entendez parler de quoi? De la ruine des nations. On l'annonçait et les gens intelligents se moquaient. Aujourd'hui, le monde est en faillite. Voilà. Je ne souhaite pas ça, mais ça ne sert à rien de demander à Dieu que ça ne se passe pas. Ça n'est pas en son pouvoir. Il a déjà décidé et la date, c'est maintenant. Ne cherchez pas le pouvoir ici-bas. Ne le demandez même pas à Dieu pour après, parce que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend plus de lui parce que ça a déjà été décidé et cela sera donné à qui cela a été, à qui ça a été décidé que cela sera donné. Alors la vraie grandeur, elle ne réside pas dans nos réalisations personnelles, elle ne réside pas... Je me rappelle en 81, on avait monté une petite chambre dans la cave, on habitait au Perreux, à l'avenue Victor Recoura, on avait une toute petite maison, puis c'est là qu'on commençait la communauté. Et alors on avait dans la cave un endroit, on l'avait transformé en chambre pour recevoir un frère, je me rappelle, c'est Charlie Niles, s'il nous écoute, que Dieu te bénisse Charlie. Et donc c'était en 81, et alors là il y a un serviteur de Dieu qui est venu un jour chez moi en furie. Oui Michel, avec tout ce que tu as reçu de Dieu, c'est pas possible. Il me disait, je suis saisi d'une sainte colère prophétique. Alors avec tout ce que tu as reçu de Dieu, alors tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et comme ça, il était tellement fâché, finalement, je lui dis, bon, écoute, mon frère, pff. Et puis on ne s'est plus revus, jusqu'à ce jour, on ne s'est plus revus. Mes frères et sœurs, la vraie grandeur, c'est celle du cœur. Elle vient de l'attitude d'un cœur qui désire servir simplement et sincèrement Dieu et les autres. Dès les premières semaines de ma conversion, Dieu m'a parlé. Alors évidemment, c'était sous forme de semence. J'ai compris les choses et petit à petit, elles se sont développées. Mais je sais qui je suis, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai à faire avec ce que j'ai et je ne cherche pas autre chose. Je ne cherche pas autre chose. Je suis désolé si ça vous déçoit, mais je ne cherche pas autre chose. Je cherche juste à m'identifier à la volonté de Dieu que Dieu a pour moi. Et frères et sœurs, on n'attend rien d'autre d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Alors c'est vrai que... On a tous, vous et moi, on a un côté très humain. Moi, c'est surtout le côté impatient, n'est-ce pas? Je voudrais que les choses aillent plus vite. Mais ça ne sert à rien. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend plus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà décidé en quel temps les choses devraient être faites. Et il ne changera rien à son plan. Mais alors là, rien. Quand je sais ça, mon anxiété de l'attente cède la place à la tranquillité. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Il s'agit de boire et de manger. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. On va lire ça, Jean 6, 48. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, donc il parlait de lui, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel Et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Ça a l'air très spirituel tout ça. Les religieux, ivres de pouvoir, se demandaient, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Eux, ils voyaient ça très matériel. Pour trouver le juste milieu de la chose. Ça n'est jamais très matériel ou très spirituel. C'est matériel et spirituel. La connaissance doit être spirituelle pour comprendre quand même. Vous ne pouvez pas manger de pain et boire du vin dans les églises et puis penser que ça suffit. Nous recevons la vie de l'Esprit lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous prenons part au bienfait rédempteur de sa mort sur la croix. Nous sommes rachetés par ce qu'il a fait à la croix. Ça, c'est une chose. On l'a chanté tout à l'heure. En un seul jour, il a fait de moi son enfant. Mais maintenant, c'est la marche par la foi. Mais maintenant, nous devons continuer à recevoir la vie spirituelle. Lorsque nous demeurons en communion avec Christ et sa parole, c'est là que nous continuons à recevoir la vie. Parce que ses paroles sont esprit et vie. Mes frères et sœurs, demeurer en communion avec Christ ne signifie pas se replier sur soi, chez soi, en méditant ou en contemplant. Je n'ai rien contre la méditation ni contre la contemplation. Mais ce n'est pas se replier sur soi, chez soi. Demeurer en communion avec Christ, c'est demeurer en communion avec son corps. Christ, ce n'est pas que la tête. Christ, à l'heure actuelle, il est la tête du corps qui est l'Église. Demeurer en communion avec Christ aujourd'hui, c'est demeurer en communion avec les frères et sœurs. Manger son corps, ça signifie se nourrir de son corps, se nourrir des frères et sœurs, manger, absorber le corps de Christ, vivre le corps de Christ, être absorbé par le corps de Christ. Je suis une partie du corps de Christ, vous vivez par moi, je vis par vous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Être un membre vivant du corps, être un membre vivant dans le corps, être un membre vivant avec le corps dont Jésus est la tête. Et boire le sang, c'est boire la vie qui fait vivre ce corps. J'entendais aujourd'hui quelqu'un qui criait. J'ai pas entendu. J'ai acheté le dernier livre de Bernard Werber et il y a une histoire, ça commence par le pétrole et le sang de la terre, il faut tuer tous les vampires qui boivent le sang de la terre. Ça commence, c'est une histoire incroyable. J'ai juste vu les premières pages, c'est incroyable. Mes frères et sœurs, ce qui fait vivre le corps, ce qui fait vivre l'Église, c'est le sang de Christ qui a été versé pour nous et qui nous purifie, qui purifie ce corps, qui nous purifie les uns les autres. C'est la vie même. La vie est dans le sang, nous dit la Bible. C'est autre chose que de chercher les honneurs, que de se nourrir du corps et de laisser la vie de Jésus passer dedans. C'est autre chose que chercher le pouvoir. Cherchez pas ça. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir la vie de Dieu en soi. Parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans la vie de Dieu. Beaucoup de gens font des tas de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Notre chair, elle doit être vivifiée par la vie de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas ne pas avoir cette vie. Et nous ne pouvons avoir cette vie qu'en mangeant, qu'en absorbant la chair et le sang de Jésus, c'est-à-dire le corps qui est l'Église et le sang qui est la vie. Comprenez-vous pourquoi les premiers chrétiens vivaient ensemble? S'ils l'ont fait, frères et sœurs, faisons-le de mieux en mieux. Il ne suffit pas de dire faisons-le, mais faisons-le de mieux en mieux. Pas à pas, marchant de progrès en progrès. Ainsi, vous aurez votre récompense. Votre récompense, elle consiste à accomplir consciemment la volonté de Dieu. Quand on sait qu'on fait la volonté de Dieu, on est paisible. Votre récompense consiste à conduire les autres au salut par Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande joie. Je te le dis, mon frère, ma sœur, seuls ceux qui auront été capables d'attendre sans se décourager, seuls ceux qui auront été capables d'attendre sans douter d'eux-mêmes ni de leur capacité verront leurs efforts journaliers finalement récompensés. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas exempt de danger, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, allons à la croix simplement. Et libérons-nous de la tension, vous savez, de la nervosité générée par l'attente. Ce que vous attendez arrive. Ça ne sert à rien d'essayer de précipiter les choses. Cela ne dépend même pas de Dieu, parce que Dieu a déjà décidé quand ça devait arriver. Le jour et l'heure. Ne vous agitez pas. Ça serait gaspiller votre énergie. Alors, vivez honnêtement. Selon la parole de Dieu, demeurez en Christ, c'est-à-dire dans le corps terrestre de Christ, l'Église, et puis annoncez le salut à ceux du dehors. C'est tout ce que Jésus attend de nous. C'est tout ce qu'il attend de nous. Nous savons pourquoi nous avons reçu l'ordre d'aller et de prêcher. C'est afin que ça serve de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Nous n'avons pas plus de prétention que les anges qui sont allés à Sodome. Ils n'avaient pas la prétention de sauver Sodome et Gomorre. Ils allaient pour que cela serve de témoignage. Genèse 19, 1. Nous allons juste chercher les brebis du Seigneur. Et pour ce qui concerne les autres, notre action d'évangélisation, notre action d'appeler à l'évangile du salut parfait de Jésus-Christ à la croix, le fait d'appeler et de dire à tous ces gens de sortir de là, comme les anges ont dit à Lot et à sa famille de sortir de là, eh bien, le fait que nous le prêchons, ça frappe d'aveuglement tous ceux qui ne veulent pas le message du salut. Genèse chapitre 19, verset 11. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Mais en réalité, nous savons que quand nous prêchons l'évangile, cela frappe d'aveuglement ceux qui ne veulent rien savoir de l'évangile tout simple de Jésus-Christ, du salut parfait. C'est notre mandat. Nous prenons par la main Lot, sa femme, ses deux filles, pour les sortir de Sodome, c'est ça. Tu parles d'un ministère à succès, les anges qui se déplacent jusqu'à Sodome et Gomorre pour sauver juste un bonhomme, une bonne femme, puis leurs deux gamines. Tu parles d'un grand ministère. Il n'y avait rien à filmer, rien à mettre sur Internet, hein? Pas de photos extraordinaires à prendre. Ces deux anges n'ont sauvé même pas une dizaine. Mais ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et ils l'ont fait, obéissant à ce que Dieu leur avait dit de faire. Il en est de même pour nous, mes frères et sœurs. C'est écrit dans la Bible. Luc 17, 28. Luc 17, 28. C'est écrit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. C'est la même chose pour nous. Nous sommes mandatés comme les anges l'étaient pour aller sauver ceux qui appartiennent à Dieu dans les nations. Mes frères et sœurs, ne soyez pas comme Jean et Jacques. Ne cherchez pas les grandes choses. Le Seigneur fera de grandes choses. Je ne demande pas des grandes choses. Paul nous dit autre chose. Lui, Paul, il nous dit: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Romains 12, 16. C'est autre chose, n'est-ce pas? Ça signifie soyez sages aux yeux de Dieu. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ça veut dire soyez sages aux yeux de Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est sage aux yeux de Dieu? Eh bien, en comparant notre comportement avec celui des envoyés de Dieu de la Bible. Non, je ne cherche pas des grandes choses. Ne cherchez pas des grandes choses. Nous devons penser au bien-être de nos frères et sœurs, à leurs besoins, à leur état spirituel. Nous devons les aider, nous devons les comprendre, Nous devons les honorer, nous devons les respecter. Alors, mes frères et sœurs, je vous le dis, et vous le savez, je connais ma capacité. Moi, je ne peux pas aimer, aider et comprendre une foule. Je peux évangéliser une foule. Mais je ne peux pas aimer, chérir, aider, honorer, respecter, comprendre, pourvoir aux besoins d'une foule. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette capacité. Voilà pourquoi notre communauté est petite. Mais pour ce qui est du ministère dans Sodome, alors là, c'est puissant. En acte, en parole, en prodige. Remercions Dieu, frères et sœurs, d'être ce que nous sommes. Remerciez Dieu, mes frères et sœurs, d'être ce que vous êtes. Vous qui m'écoutez sur Internet, vous êtes tout petits. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent dans les pays totalitaires. Vous êtes 3 ou 4 chrétiens dans la crainte. Vous avez peur. Vous savez qu'il y a des gens qui font la délation et vous risquez votre vie même. Vous êtes tout petits, vous vous sentez minables. C'est vous, les saints de la terre. C'est vous que Dieu chérit. C'est sur vous que Dieu regarde. Soyez simples. Ne cherchez pas à faire des grands trucs. Soyez simples, soyez honnêtes avec vous-même, avec Dieu, avec les autres. Et attendons que le moment de la grande dernière vague arrive. Elle va arriver. Elle arrive. Mais ça ne sert à rien d'essayer de la provoquer soi-même. Elle arrivera. Le prophète nous a dit, elle arrivera sur une période. Il a dit, je ne sais pas, cela va passer si vite. Je ne sais pas si c'est 6 jours, 6 semaines ou 6 mois. Il a dit, je ne sais pas, cela va passer très vite devant moi. Mais pas plus. Frères et sœurs, soyez simplement à votre poste. Quand on regarde, et moi je me réjouis, je regarde des top chrétiens l'autre jour et je me réjouis, je vois Bonke qui fait des réunions en Chine et dans tous les pays là-bas, il y a des milliers de personnes, c'est extraordinaire. Moi aussi j'ai des grandes réunions, hein. Peut-être pas des milliers, des centaines de milliers comme lui, mais c'est extraordinaire de voir ça, c'est réjouissant, on aime voir ça. Alors des gens disent, les chrétiens pensent, ah c'est le réveil. Mais non, ce n'est pas le réveil, il n'y a plus de réveil, il n'y a pas de réveil. Ce n'est pas le réveil, c'est des inconvertis qui s'éveillent pour la première fois, qui viennent au salut. Ce n'est pas un réveil, c'est un éveil qui se passe en ce moment. Ce n'est pas ça le réveil. Ce que nous attendons, cette dernière vague qui doit arriver, le réveil, ce sera le réveil d'une minorité de gens déjà sauvés. Le réveil de l'épouse, pour qu'elle puisse partir avec le Seigneur à sa rencontre dans les cieux. En ce moment, elle dort, l'épouse, elle dort. Et notre voix est en train de l'atteindre. L'époux vient. L'époux vient. Frères et sœurs, j'aspire vraiment à son retour. J'espère vivre assez longtemps pour vivre ça, hein, ce retour. Prenons pour exemple les 2 anges qui ont visité Sodome. La Bible nous dit qu'ils voulaient rester dans la rue. C'est curieux, hein? Ils voulaient rester dans la rue, là où sont les gens. Ça, c'est ce que j'aime, c'est aller dans la rue, là où sont les gens, aux terrasses des bistrots, évangéliser, sur les places de marché avec Nicolas, brailler comme ça, attirer les foules et leur dire que Jésus est leur sauveur, aller dans les rues. Là, ces 2 anges, ils voulaient aller dans les rues. Mais Lot les séduisit. Il dit, non, 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 venez chez moi. Alors ils sont allés, puis Lot leur a fait un festin. Genèse 19, 2, 3. Lot faisait ça pour leur bien, parce que Lot, il avait vu que c'était des envoyés de Dieu. Puis il s'est dit, mais il ne faut pas les laisser comme ça, c'est affreux. Il ne faut pas les laisser dans cette misère, dans cette rue affreuse. Il faut que je les invite chez eux, il faut que je les bénisse. Vous voyez, quand, il faut toujours, voir quel est le cœur de ceux qui même des fois, nous détournent un moment du plan que Dieu avait pour nous. Les anges se sont laissés faire aussi. Lot, il voulait aider les anges, c'était tout son cœur, c'était de l'amour, il était gentil. Mais l'histoire qui devait arriver, ben, elle est arrivée. Le matin, bam. Et je vous dis, frères et sœurs, l'histoire, elle se répète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il en sera de même à la fin comme au temps de Lot. C'est Jésus qui l'a dit. Alors, laissons-nous aider par ceux qui nous aiment, ne les rejetons pas, mais ne perdons pas de vue pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être la vie de Dieu qui se manifeste dans la chair. Comme elle se manifestait du temps de Lot, les anges avaient une chair. Ils pouvaient manger, ils ont mangé avec Abraham. les esprits ne peuvent pas manger. Ils avaient un corps de chair, ils ont mangé. Eh bien, nous sommes là comme ces anges pour être la vie de Dieu qui se manifeste dans la chair, dans notre génération, comme elle se manifestait au temps de Lot. La vie ne peut se manifester que si nous demeurons en communion avec Christ, c'est-à-dire avec son corps, dont il est la tête. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. J'espère. Jésus revient bientôt et le plus important, c'est ceci. Demeurez en lui et annoncez sa parole aux perdus. Que Dieu nous soutienne. Amen. Amen.